La route du large, podcast by Tendance Ouest.
La Transat Jacques Vabre s'élance depuis Le Havre, dimanche 7 novembre. 79 bateaux voguent vers la Martinique, destination d'arrivée inédite de cette 15e route du café.
Charlie Dalin,
Paul Meya,
skipper de l'Imoca à Pivia.
On avait quitté Charlie Dalin en janvier dernier, juste après la ligne d'arrivée du Vendée Globe, qu'il a été le premier à franchir. Pour cette Transat, le Havrais fait équipe avec un autre solitaire aguerri, Paul Meya, vainqueur de la dernière route du Rhum en Imoca.
Est-ce que vous pouvez me faire d'abord une carte d'identité de ce bateau, puisque c'est le bateau tenant du titre sur cette Transat Jacques Vabre?
Alors à Pivia, c'est un bateau de la catégorie Imoca, donc les bateaux du Vendée Globe. C'est un bateau qui fait 60 pieds, donc 18 mètres de long. C'est un bateau qui a été mis à l'eau en août 2019. C'est le bateau Limoca tenant du titre de la Transat Jacques Vabre qu'on a remporté avec Yann Elias à l'époque, donc en 2019. C'est le bateau avec lequel j'ai participé aussi au Vendée Globe cet hiver. Voilà, c'est un bateau à foil, ces ailes sous-marines là, qui nous permettent d'atteindre des vitesses très élevées.
Vous êtes deux sur le Vendée, c'est en solitaire. Comment ça va se répartir sur cette Transat, Paul?
En fait, sur ces bateaux, et globalement quand on fait du double, on répartit pas tant que ça les tâches, puisqu'on va plutôt alterner chacun notre tour une prise de quart du bateau. Donc c'est pour ça que c'est très bien d'être complémentaire. Mais il faut aussi qu'on soit autonome. Et, du coup, quand on navigue en double, on a souvent une association de deux solitaires. C'est souvent ce qui marche le mieux comme duo, parce que finalement, faire marcher ces bateaux-là tout seul, c'est quand même beaucoup d'expérience.
La prise en main s'est bien passée avec Apivia?
Bah, super, parce que Charlie il connaît son bateau par cœur. L'équipe technique est vraiment très présente et il continue à développer le bateau. Et puis, moi, j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre, parce que j'avais beaucoup navigué en Imoca, mais ce bateau-là était un peu différent. Mais comme j'ai intégré l'équipe assez tôt, j'ai intégré l'équipe avant la mise à l'eau qui était en mai, donc on a passé plus de 6 mois ensemble, ce qui m'a permis de commencer à bien prendre mes marques. Puis maintenant, connaître le bateau, alors je le connais pas aussi bien que Charlie, mais je le connais assez bien pour l'emmener jusqu'en Martinique.
L'emmener jusqu'en Martinique avec clairement un objectif, ou en tout cas une étiquette de favori ou de tenant du titre qu'il va falloir garder.
Ouais, l'objectif c'est effectivement d'aller chercher ce doublé. Après on sait très bien comment une course au large se passe. Il y a toujours il se passe toujours beaucoup de choses. Mais en tout cas on a travaillé avec Paul cette année pour être dans la position de pouvoir aller chercher une nouvelle victoire.
Est-ce qu'il y a des concurrents qui font plus peur que d'autres?
Il y a un niveau assez homogène en fait. Les Imoca sont des prototypes, donc c'est important que j'en comprenne. C'est-à-dire que tous les bateaux sont différents et finalement chaque bateau aura peut-être un point fort ou un point faible en fonction des conditions météo. Donc c'est vrai qu'en fonction du scénario qu'on va rencontrer, qu'on ne connaît pas encore, un bateau peut être plus dangereux qu'un autre. Après, sur chaque bateau, les duos en tout cas sont d'excellente qualité. Il n'y a que des excellents marins. Donc il y a aussi des choix météo qu'il va falloir faire, qui sont des fois difficiles. Il y a pas mal de concurrents. On va dire que entre 6 et 8 bateaux neufs de dernière génération qui sont aujourd'hui au top de leur forme, qui sont fiabilisés, qui peuvent prétendre à la victoire ou au podium.
Le scénario, on ne le connaît pas encore. En revanche, le parcours, on le connaît. Et ça, c'est quand même ce qui change aussi par rapport à ce que vous avez connu l'un et l'autre sur cette Transat. Ça vous inspire?
Alors oui, parce que moi, j'aime bien quand les courses sont dures. Donc là, c'est plus long. En fait, c'est la même chose que ce qu'on faisait avant, plus, on va dire, un quart. En gros, on rajoute entre 25 et 30% de la route. Et puis, j'aime aussi le côté nouveau. Parce que finalement, on a tous quasiment une dizaine de transats. Moi, je crois que c'est ma 10 ou 11e transat. Et les parcours sont souvent similaires. Et c'est vrai que d'être un peu stimulé avec un nouveau parcours, de la nouvelle stratégie, c'est intéressant, quoi.
Charlie, ce parcours.
Ouais, un parcours plus long, plus dur que la dernière fois. On a fait beaucoup d'études climato sur le parcours pour essayer de typer un peu Apivia basé sur les statistiques météo qu'on a le plus de chances de rencontrer. Je pense qu'on va arriver fatigué en Martinique parce que il y a ces deux passages du poteau noir. On va beaucoup naviguer dans des latitudes très chaudes, beaucoup autour de l'équateur. Il y aura beaucoup de manœuvres sur ce dernier tronçon, beaucoup de choix stratégiques aussi. Là, ça va être assez ouvert. Un parcours qui va être éprouvant et Et voilà, je suis très heureux de faire équipe avec Paul sur ce parcours, parce que voilà, je pense que c'est le profil idéal pour mettre le plus de chances de notre côté.
Podcast by Tendance Ouest.
On prend un peu de recul pour vous connaître un peu mieux en tant que marin. Si vous aviez un tout premier souvenir de mer, pas forcément de voile, quelles images, quel endroit revient ?
Alors moi, le problème, c'est les souvenirs de l'âge, parce que j'ai eu la chance, moi, de partir quand je suis né au mois de mai, et dès l'été, mes parents m'emmenaient en bateau. Mais les souvenirs de mer, moi, c'est la Bretagne Sud, plutôt, des croisières, puisque c'est là qu'on a commencé avec mes parents. Et par contre, mes premiers souvenirs de compétition, finalement, j'étais en région parisienne, et les premiers entraînements et compétitions en mer, je venais justement les faire ici au Havre, donc à ma jeune adolescence, quand j'avais 12-13 ans. Donc c'est les souvenirs de la 13 avec la remorque et les bateaux.
Les souvenirs de mer, en bateau à voile, c'était à Crozon pour le coup, en Bretagne. Voilà mes premiers stages optimistes, mais je pense qu'avant ça, j'ai des traversées. Je me rappelle d'une traversée que j'avais fait en décembre vers Ouessant, en ferry, avec une grosse mer. Tout le monde était malade à bord. Moi, je n'avais pas été malade. Et voilà, c'est la première fois que je voyais des vraies grosses vagues du large. Et voilà, ça m'a assez marqué.
Justement, une grosse galère de mer, la pire.
J'en ai pas eu tant que ça. Je touche du bois. J'ai eu quelques dématages. Forcément, ce n'est pas des bons souvenirs, parce que, en fait, il y a certaines avaries où on sait qu'il y a un petit peu d'espoir de continuer, de réparer. Un dématage, c'est, voilà, en fait, en une fraction de seconde, on sait que toute la course s'effondre, qu'il n'y a aucune chance de pouvoir la continuer. Donc ouais, c'est pas des très bons souvenirs forcément.
Paul.
Ouais, mais j'ai eu pour le coup pas mal d'avaries techniques aussi, hein, bien sûr, avant des globes, et puis aussi des blessures en mer qui ont été assez dures. Mais je crois que le pire souvenir que j'ai en mer, ça a pas duré longtemps heureusement, parce que l'histoire s'est bien finie. Mais c'est que ma première course au large à la Cap Istanbul, où quelqu'un était tombé dans l'eau et on l'a tous cherché. Et je crois que c'est les pires heures que j'ai jamais vécues sur un bateau. Et heureusement, j'ai fini par. C'est moi qui ai retrouvé Christophe Bouvet à l'époque. Mais en tout cas, c'est les pires heures que j'ai vécues sur un bateau. C'est celle qui précédait ce moment-là. Ouais.
Et une. Alors, je demandais le pire, mais une belle image, la plus belle, ou le plus beau souvenir. Est-ce que c'est quand on lève les bras ou pas?
Alors, quand on lève les bras, c'est plutôt un souvenir sportif. Après, les souvenirs de mer, je dirais que c'est plutôt les paysages ou les animaux qu'on peut rencontrer, ou des conditions où le bateau a une sorte de plénitude qui glisse, qui va très vite, ou des choses comme ça. Moi, j'ai des super souvenirs sur le Vendée Globe, justement, de moments où pendant 2-3 jours, en fait, le bateau il file, et c'est assez génial, quoi.
Des souvenirs de plancton fluorescent, Charlie, c'est ça?
Ouais, ça c'est quelque chose d'assez magique. Hein. Voilà, donc on passe dans des zones qui sont riches en plancton. En fait, ça, le sillage s'illumine, devient fluorescent. Moi, j'ai des souvenirs de voir les voiles se faire éclairer par ce plancton. Après, quand il y a des dauphins aussi qui se rajoutent dans ces conditions, on a l'impression de voir des torpilles nager autour du bateau. Voilà, c'est des beaux moments.
Une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous amenez à tout prix à bord? Pas forcément un gris-gris, mais ça peut être un accessoire, quelque chose auquel vous êtes sûr de partir avec.
Alors moi, pas d'habitude, j'emmène jamais rien. Et là, ce coup-ci, en fait, j'avais des enfants là, qui sont venus aujourd'hui nous voir et qui m'ont offert une tortue qui s'appelle Anatole. Voilà, donc je vais l'emmener, hein, ça, voilà, j'espère qu'elle va nous porter chance.
Charlie, un gris-gris, un petit accessoire?
On va rester dans le thème animalier, parce que moi, depuis de nombreuses années, j'ai une petite poule en laine qui fait 23 grammes précisément, qui est dans le bateau. Voilà, c'est ma femme qui me l'a offert il y a quelques années. Voilà, elle a fait toutes les courses avec moi. Elle est installée dans la Pivia depuis la mise à l'eau.
Et le poids, c'est important quand on fait de la voile?
Le poids, c'est très important. En tout cas pour moi, en tout cas peut-être moins pour d'autres, mais pour moi, beaucoup.
Suivez les derniers préparatifs de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, la route du large, le podcast. Podcast by Tendance Ouest.